Je viens d'arriver dans un nouveau cabinet de recrutement et en fait, c'est mon premier job dans un cabinet de recrutement. J'ai envie de très bien faire. En plus, je suis en période d'essai. J'ai pas envie de me rater. Et j'adresse un tout nouveau type de poste que j'ai jamais fait auparavant, ingénieur en énergie renouvelable. Alors, c'est un métier que je connais pas beaucoup, pas du tout, en fait. J'ai envie de super bien faire, d'impressionner un peu mon client. Je vois plusieurs personnes, d'abord au téléphone, puis ensuite en vrai, en physique, pour les rencontrer chacun d'entre eux. J'en vois un, j'en vois deux, j'en vois quatre. On arrive à une dizaine de candidats. Le process commence à un petit peu durer en longueur, un peu trop à mon goût. Je me dis que le client va sûrement en avoir marre, va sûrement prendre quelqu'un d'autre. Je suis un petit peu stressée. Et là, finalement, je dois voir le dernier candidat de ma liste. J'y crois plus trop. Et lorsqu'il arrive, waouh ! Il s'installe, on discute à bâton rompu. Il échange avec moi de façon très naturelle. Il répond super bien à mes questions. J'ai aucun doute sur ses compétences. Vraiment, il m'impressionne. Je sors de là, je suis conquise. Et je me dis, bah, c'est lui. Et le lendemain, quand je dois présenter à mon client différents profils, j'ai envie de lui présenter mon favori, celui d'hier, forcément. Et le fait est qu'il est d'accord avec moi, il recrute cette personne. Donc je suis aux anges, pour moi c'est un grand succès, je suis trop forte et vraiment je suis ravie. Un petit peu plus tard, mon client il me rappelle parce qu'il a à peu près le même besoin à pourvoir. Donc un poste similaire, il me dit, Johanna, pourquoi pas me parler des autres profils que vous m'aviez envoyés, je les ai plus en tête, est-ce que vous pouvez m'en parler? Et là, eh bien j'ai un trou de mémoire. Je sais plus exactement, je me rappelle qu'ils étaient bons, que c'était des bons candidats, je les avais promus et envoyés, donc forcément ils avaient dû me marquer d'une raison ou d'une autre, mais j'ai plus vraiment le détail. Je reprends mes notes et force est de constater que, comparativement au mail que j'avais envoyé pour promouvoir mon candidat chouchou, il y a beaucoup moins de détails. Il y a aussi beaucoup moins d'émotions. Je vois que sur le candidat que j'avais un petit peu essayé de promouvoir, il y a beaucoup de moi, en fait. Il y a beaucoup de ma personnalité, de ce que je pense pour pouvoir le promouvoir, versus les notes concernant les autres candidats qui sont nettement plus froides et un petit peu plus incomplètes aussi. Et je suis obligée de les rappeler pour me remémorer un petit peu leur profil, leur parcours, leur spécificité. Certains sont plus disponibles, mais je me dis à ce moment-là que, en fait, ils auraient pu aussi être de très bons candidats.
Si je vous dis le meilleur pour la fin, ça vous parle? C'est en tout cas ce que notre cerveau peut facilement nous faire croire, notamment durant un processus de recrutement qui s'étale sur plusieurs semaines. Lors d'une prise de décision, nous avons tendance à accorder plus d'importance aux informations récentes, tandis que nos premiers souvenirs se font déjà plus flous. Après avoir rencontré plusieurs candidats, notre mémoire va inconsciemment privilégier et faire pencher la balance en faveur du dernier profil rencontré. Ce phénomène, bien connu et qui joue un rôle primordial au recrutement, s'appelle l'effet de récence. Dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts Histoire de recruteurs, proposé par WeSuggest, plateforme d'évaluation des soft skills en recrutement, nous allons donc explorer ensemble les mécanismes de l'effet de récence et les solutions à adopter pour minimiser son impact dans les processus de recrutement. Je suis Marie-Sophie Zambeau, éditorialiste RH, et pour aborder cette thématique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, derrière notre micro, Johanna Bouy, coach en recrutement. C'est parti! Bonjour Johanna, bienvenue.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je suis très heureuse de t'accueillir derrière notre micro aujourd'hui et qu'on puisse disséquer ensemble ce biais cognitif de l'effet de récence. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter à nous en quelques minutes, s'il te plaît?
Je suis coach en recrutement. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans le recrutement, d'abord en tant que manager opérationnel, ensuite en cabinet de recrutement, et puis ensuite en tant que responsable recrutement d'un grand groupe dans le numérique. Je suis maintenant à mon compte sur le recrutement de recruteurs et surtout sur la formation, la montée en compétences des recruteurs. Je forme, je mentore des équipes recrutement ou des recruteurs solo sur trois axes, la partie technique, la partie leadership et la partie organisationnelle.
Tu as eu la gentillesse de partager avec nous une anecdote toute personnelle sur cet effet de récence. Comment tu t'es rendu compte en fait que tu avais été sujette à ce biais-là? Est-ce que ça a été immédiat comme prise de conscience ou est-ce que c'est rétrospectivement que tu t'es rendu compte?
Ça n'a pas été immédiat du tout, puisque finalement, la personne que j'avais un petit peu promue plus que les autres a été recrutée. Donc pour moi, ça avait validé mon recrutement et ma façon de faire. C'est plus tard, lorsque le client m'a recontacté et qu'il me demandait un peu des détails sur les autres profils que j'avais envoyés, que j'avais un trou de mémoire, en fait. Donc ma mémoire était beaucoup moins vivace. Mon souvenir était beaucoup moins coloré, moins vivant, moins de détails. Et lorsque j'ai repris mes notes, c'était à l'image de la mémoire. Finalement, les notes, elles étaient là, elles étaient construites. Mais quand même, il y avait moins de détails et il y avait aussi moins d'émotions. J'avais mis moins moi de moi-même, en fait, dans ces notes. Et ça se voyait bien, la différence entre les deux. C'est là où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose quand même.
Et si tu devais revivre cette expérience, si tu devais revivre cette anecdote, qu'est-ce que tu modifierais dans ton comportement, dans ta démarche pour éviter de tomber dans ce piège ?
La première chose, c'est de me rendre compte, moi, de l'émotion, de l'énergie que me procure la personne qui est en face de moi. Et lorsque je suis un petit peu impressionnée par quelqu'un, positivement ou même négativement, déjà m'en rendre compte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est dans ma prise de notes, d'avoir peut-être un script de notes, un template de notes extrêmement structuré sur des critères qui soient précis, qui me permettent de ne pas avoir des écarts de qualité, finalement, entre une note et une autre. Et enfin, la troisième chose, c'est de laisser passer un temps entre le moment où on reçoit les candidats et le moment où on va les promouvoir auprès de notre client ou notre client interne. Un temps qui soit évidemment pas trop long parce qu'il faut rester réactif, mais quand même pas trop court non plus.
Excellent conseil, bien évidemment, Johanna. Est-ce que tu aurais d'autres techniques, d'autres astuces personnelles pour essayer de contrer un maximum cet effet de récence ?
Je crois que pour contrer cet effet et puis tous les biais de façon générale, structurer son processus de recrutement, c'est vraiment incontournable, c'est-à-dire avoir des critères de sélection qui soient rigoureux, qui soient précis, qui soient partagés avec son client ou son client interne, et sur lesquels on va construire en fait toute notre sélection, toute notre évaluation, les questions qu'on va poser aux candidats, toujours les mêmes, dans le même ordre, pour permettre justement de ne pas se laisser, entre guillemets, piéger par l'émotion qu'on peut ressentir avec son candidat. Et ça, ça part de quelque chose qui pour moi est très important, c'est le brief. L'étape du brief est capitale, c'est là où on va déterminer tout ça. On va aussi faire la part entre les vraies compétences et les compétences qui sont un petit peu moins importantes pour le poste. Et un brief puissant va permettre en fait de structurer tout le reste derrière.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'entretien structuré ?
Un entretien structuré, c'est un entretien où on va évaluer les candidats selon les mêmes critères par rapport aux autres. C'est très important parce qu'on ne peut pas évaluer des personnes selon des critères différents, ça n'a pas de sens. Donc dans l'entretien structuré, on va avoir une banque de questions qu'on va avoir construite en amont en fonction des critères de recrutement qu'on va avoir déterminés lors du brief puissant. Et on va les poser tout le temps les mêmes, dans le même ordre si possible, à notre candidat. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter avec lui, creuser certains points, être chaleureux, vraiment avoir ce côté humain dans l'entretien. Au contraire, en fait, ça va nous permettre d'assurer une évaluation qui est rigoureuse, mais aussi qui est éthique.
Je suis à titre personnel une grande fan de l'entretien structuré, donc j'en profite pour faire une petite digression. Quels sont, selon toi, les principaux avantages de l'entretien structuré ?
Pour moi, l'entretien structuré, c'est pas seulement avoir préparé son entretien et avoir relu le CV du candidat, c'est bien avoir compris quels sont les critères importants, mais vraiment importants, du poste, d'avoir déterminé des questions en amont par rapport à ce poste, dans le but d'avoir une évaluation qui soit toujours identique. Évaluer les personnes avec les mêmes critères, en fait, tout simplement. Ça, ça permet d'avoir quelque chose qui est scientifique parce que la prédictibilité d'un entretien structuré est bien meilleure qu'un entretien qui ne l'est pas. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la partie éthique, puisqu'on va être moins sujet aux biais. En tout cas, ça va réduire l'impact des biais et ça va permettre de garantir qu'on traite tous les candidats de façon identique.
À titre personnel, est-ce que tu accordes une attention particulière à l'ordre des entretiens de recrutement ? À savoir, est-ce que tu utilises maintenant sciemment l'existence de ce biais de l'effet de récence pour favoriser tel ou tel candidat vis-à-vis des managers ou pour faire passer un message ?
Alors, j'y ai déjà pensé. Très honnêtement, je ne l'ai jamais vraiment fait. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne technique, un bon hack de recrutement.
Est-ce que tu as déjà des candidats qui t'ont demandé quel était leur positionnement dans le processus de recrutement pour pouvoir eux aussi jouer avec ça et l'utiliser ?
Alors, pas encore, ça ne m'est pas encore arrivé, mais c'est vrai que ce serait là encore une astuce assez sympa à utiliser de leur part. On m'a déjà demandé évidemment combien il y avait de candidats sur un processus, par exemple, mais jamais dans quel ordre ils passaient.
L'effet de récence n'est pas forcément réservé exclusivement aux recruteurs et managers, en fait. Les candidats peuvent aussi clairement s'en emparer et l'utiliser afin de marquer des points auprès des recruteurs et leur laisser l'image la plus positive. Tu valides ?
Alors bien sûr, ils peuvent demander dans quel ordre ils vont passer pour essayer d'influencer le recruteur et de passer en dernier ou en premier, parce qu'il y a l'autre biais qui existe, qui est l'effet de primauté, à l'inverse. Mais aussi, au cours de l'entretien, ils peuvent s'emparer de ce biais-là en essayant de donner une dernière super bonne impression. Par exemple, ils peuvent faire un résumé de leurs compétences, de leurs grands points forts et puis aussi de leur motivation pour le poste. Et puis, une fois l'entretien terminé, faire un petit mail au recruteur permet aussi de marquer positivement la personne qui nous a reçus.
Je ne peux que encourager les candidats à faire un résumé en fin d'entretien et surtout le petit email de remerciement, ça fonctionne toujours très très bien. Tu as évoqué assez naturellement un autre biais qui est clairement lié à l'effet de récence, qui est l'effet de primauté, à savoir qu'on se rappelle mieux également des premières informations réceptionnées. Dans un processus de recrutement, on va donc se rappeler très bien des premières informations et donc des premiers candidats. On va aussi se rappeler tout particulièrement des derniers candidats rencontrés. J'aurais tendance à dire quid des candidats du milieu. Ce sont eux qui ont l'air d'être tout particulièrement lésés. Donc voilà, quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre?
Déjà, le savoir. C'est-à-dire que quand on a connaissance de ces deux biais, on sait que les candidats du milieu, on aura tendance à un petit peu plus facilement les oublier. En tout cas, notre mémoire, elle sera un petit peu moins vivace sur eux. Donc, porter une attention particulière à ces candidats, finalement, va peut-être permettre de compenser cet effet. La deuxième chose, c'est la prise de notes. Avoir, comme je disais, une structuration de prise de notes qui permet de ne pas avoir d'écart trop important entre les candidats et avoir les mêmes critères à chaque fois pour chacun des candidats.
Aujourd'hui, une grande partie de ton activité consiste en fait à former les recruteurs. Quelle importance accordes-tu au biais cognitif dans tes formations? Comment t'y prends-tu pour faire de la pédagogie, notamment autour du biais de récence?
Alors ça occupe une place très importante dans ma formation. Je passe souvent une journée sur le sujet de l'évaluation et des biais cognitifs parce que c'est intrinsèquement lié. La façon dont je vais avoir de travailler, c'est de prendre des exemples issus de la vraie vie, essayer de donner des partages d'expériences entre les recruteurs que je vais former, et puis faire aussi des simulations qui vont permettre de se rendre compte in situ que les personnes sont victimes eux-mêmes, alors qu'ils se sont des recruteurs professionnels, de ces biais-là. Et en s'en rendant compte, avec l'effet miroir aussi, les autres personnes peuvent se dire « bah oui, c'est vrai, ça existe déjà, c'est une réalité ». Je suis aussi concernée parce qu'on a toujours l'impression que les biais, on sait ce que c'est, mais nous, ça va, ça nous arrive pas. On est au-dessus de ça, alors que si on y est tous victimes, même quand on est très sensibilisé, voire même quand on est formateur sur le sujet, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas victime de ces biais-là pour autant. Simplement, on a un peu des techniques et des hacks pour les mettre un petit peu en silence.
Tu viens de nous parler de mise en situation. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus comment concrètement tu arrives à faire prendre conscience des recruteurs qui exercent ce métier d'ailleurs, pour certains, depuis pas mal de temps, des biais cognitifs auxquels ils sont sujets?
Je crois qu'il faut passer de la théorie à la pratique pour se rendre compte qu'on est nous-mêmes sujets à des biais, surtout comme tu le dis, quand ça fait quelques années qu'on recrute et qu'on a un peu des certitudes. Donc moi, ma technique, c'est la simulation. Je vais faire des faux entretiens qui vont me servir bien sûr à expliquer les techniques d'évaluation, mais aussi à souligner les biais. Je peux jouer aussi la recruteuse avec des biais. Et l'objectif du public, des personnes que je forme, c'est de repérer les biais desquels je suis victime.
Et justement, ton public, les recruteurs, ils découvrent facilement ces biais. Et au final, est-ce qu'il y a un déclic, une prise de conscience? Qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'ils se prêtent à ces mises en situation?
Quasiment à chaque fois, il y a une vraie surprise. C'est-à-dire qu'au début, les personnes me disent « Oh bah oui, je connais moi les biais, oui, je sais ce que c'est ». Ils savent ce que c'est intellectuellement, mais ensuite de les pratiquer, de les voir comme ça devant nous, et finalement de se dire que oui, on est aussi concernés, ça provoque une prise de conscience chez eux, et ensuite une remise en question de toutes leurs pratiques. C'est quelque chose qui est assez puissant, finalement, d'avoir un déclic de cette nature-là. Et l'objectif, ensuite, de ce déclic, c'est qu'on puisse travailler sur une autre structuration de l'entretien, par exemple, ou du processus de recrutement. Sans cette prise de conscience-là, ça va être un petit peu difficile pour moi, en fait, de leur montrer l'intérêt de structurer un processus, par exemple.
Pour finir, si tu ne devais nous donner qu'un seul conseil pour lutter contre ce biais d'effet de récence, ce serait lequel? Un seul conseil à retenir?
De se sensibiliser sur le sujet. Avant de rentrer dans le concret et de mettre des processus structurés en place, etc., de bien comprendre de quoi il s'agit. Donc là, on peut lire des ressources sur le sujet, on peut lire Kahneman, par exemple, on peut essayer de comprendre vraiment en quoi ça consiste un biais et quels sont les différents biais qui existent. Alors, il y en a un certain nombre, plus d'une centaine, mais en s'intéressant véritablement au sujet, on va être aussi beaucoup plus conscient de nous-mêmes, et je crois que c'est ça le meilleur conseil, c'est d'être en conscience de ce qu'on fait, de comment on pense et d'essayer un maximum d'avoir du recul par rapport à ça pour se rendre compte aussi des pièges dans lesquels notre cerveau, des fois, nous met un peu.
Outre ta formation, est-ce que tu as quelques ressources personnelles à nous recommander sur ce sujet des biais cognitifs ?
Déjà de lire un maximum sur le sujet. Il y a aussi des ressources en ligne sur YouTube. Il y a des vidéos qui sont très bien faites, qui expliquent les biais, qui les illustrent avec des exemples précis, mis en situation justement dans d'autres contextes, pas forcément dans le contexte de recrutement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on s'intéresse aux biais cognitifs par le truchement du recrutement, on va les voir un petit peu partout, parce qu'on va les voir aussi dans le marketing, on va les voir à la télé, on va les voir un peu partout. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Eh ben merci beaucoup, Johanna.
Merci, Marie-Sophie.
Ça a été un grand bonheur de t'avoir derrière notre micro aujourd'hui.
Un plaisir partagé.
Qui se souvient, avec précision, de ce qu'il faisait il y a 30 jours ? Si notre cerveau peut parfois nous impressionner en se remémorant des événements anciens, il n'est, pour autant, pas toujours évident de se rappeler avec justesse des moments vécus ou des personnes rencontrées il y a plusieurs jours. Et d'autant plus dans un processus de recrutement s'étalant sur plusieurs semaines. Il peut être compliqué, pour ne pas dire impossible, de se souvenir avec exactitude de tous les candidats. Et notre cerveau va donc inconsciemment nous conduire à favoriser le dernier profil rencontré. Mais comme vous l'aurez compris à l'écoute du témoignage de Johanna, ce serait une erreur de sélectionner un candidat sur la seule base de son positionnement dans le processus de recrutement. Heureusement, il existe des moyens concrets pour atténuer les effets néfastes de ce biais dans nos décisions de recrutement, comme notamment la co-construction d'un brief puissant ou bien encore l'attention portée à la qualité de la prise de notes. Vous venez d'écouter Histoire de recruteur, le jour où j'ai favorisé le dernier candidat rencontré. Sachez que vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Spotify, Deezer, Ocha, Apple Podcasts. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous.